cela peut vous paraître utopique. Je vais essayer de vous prouver que ce n'est pas le contraire. Mais avant, je voudrais vous parler un peu de l'autre métaphore que j'utilise, parce que dans le bouquin, c'est leur crise au pluriel. Je ne pense pas qu'il y ait que des crises financières, même si cela a chassé les autres crises de la une des journaux, de la télé, etc. Mais c'est leur crise au pluriel. Alors, j'utilise aussi la métaphore de la prison, parce que je crois qu'on n'est pas libre de faire nos choix actuellement, que nous sommes mis en prison par le mur de la finance qui nous dit constamment que le marché sait tout, que le marché va toujours faire les bons choix, qu'il faut laisser faire le marché, qu'il va s'auto-réguler et qu'il faut respecter ce marché et intervenir le moins possible et puis surtout ne pas avoir un État qui essaie de réglementer. Deuxième mur, ce sont les inégalités qui croissent depuis 30 ans. Et ceci a des conséquences extrêmement graves pour toutes les sociétés. Et c'est le fait de sociétés aussi différentes que les États-Unis et la Chine ou que l'Amérique latine et l'Europe, partout, ça augmente. Ça augmente moins, heureusement, dans certains pays que dans d'autres, mais vous avez tous, je crois, assisté au fait, si vous vivez en Europe depuis un certain temps, vous avez assisté au fait que le nombre de pauvres augmente en Europe. Le seul endroit d'ailleurs où le nombre absolu de pauvres n'augmente pas, c'est en Chine, et toute la réduction, entre guillemets, de la pauvreté est due à la Chine. 400 millions de personnes ne sont plus classées officiellement comme pauvres. Bon, très bien. Mais la pauvreté absolue n'est pas la même chose que l'inégalité. Ça veut dire qu'en même temps, en Chine, qu'on a libéré les gens de la pauvreté, ce qui est une excellente chose, il y a eu une croissance vertigineuse de la richesse, une concentration des richesses dont le développement a été, comme vous le savez, considérable en Chine, et que la différence entre ceux qui sont juste au-dessus du seuil de la pauvreté et les plus riches est colossale. J'ai vu à la télé l'autre soir qu'on va doubler le nombre de palaces à Paris, des 5 ou 12 étoiles. Pourquoi? Mais parce qu'on prévoit l'afflux de touristes des pays émergents. Personnellement, je crois que l'Europe n'a pas pour vocation d'être uniquement une destination de tourisme pour les Chinois, les Indiens et d'autres personnes nouvellement enrichies. Ça, c'est peut-être un autre sujet. Mais partout, il y a des gens qui sont devenus, grâce aux politiques néolibérales, fabuleusement riches. Et j'essaie de traiter cette question des inégalités en disant, bon, maintenant ça commence à bien faire, on sait tout sur les pauvres. On sait tout sur les pauvres, on a des rapports sans nombre des Nations Unies, de la Banque mondiale. Les pauvres sont catalogués, ils sont examinés sous toutes les coutures, on sait combien ils ont de lavabos, de toilettes, de maisons, de calories par jour, d'enfants. Bon, il y a la marre. Il faut étudier les riches. Et je demande aux étudiants en sciences sociales d'étudier les riches. C'est plus difficile parce qu'on ne découvre jamais toute la vérité sur les riches. Les pauvres, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils se laissent examiner. Mais les riches, hein, ils ont des moyens de se protéger. Mais il faut savoir où se cachent ces riches, quel est leur pouvoir. Je crois que ça, c'est une digne occupation pour des chercheurs en sciences sociales. Et pour moi, ces riches constituent ce que j'appelle la classe de Davos. La classe de Davos, pourquoi? Et ça, c'est eux dans leur crise, c'est le « eux » de « leur hein. ». S'il y a un « eux » et un « nous », la classe de Davos, c'est eux. La phase de Davos, ce sont ces gens qui se retrouvent au mois de janvier dans la station suisse. Et il y a des grands banquiers, il y a des grands capitaines d'industrie, il y a des politiques, il y a un saupoudrage de syndicalistes, pas trop, il y a quelques dirigeants de grandes ONG, mais très majoritairement ce sont ces gens qui sont nomades, pardon, qui ont des, en général des fortunes, mais qui sont interchangeables et nomades. Si vous n'êtes plus le président de telle très grande banque l'an prochain, vous ne serez pas réinvité. Vous serez remplacé par quelqu'un d'autre. Et je sais très bien que pour définir une classe sociale, il faut qu'ils aient les mêmes intérêts et souvent le grand banquier n'a pas exactement les mêmes intérêts que le grand industriel. C'est vrai. Mais je crois que dans des moments difficiles, des moments décisifs, ils sont ensemble et ils sont prêts à sacrifier les autres pour leurs propres objectifs. C'est eux la classe de Davos et c'est eux qui ont magistralement réussi parce que au début de cette crise, en 2008, vraiment le G8 et le G20, ben, ces gens avaient peur, hein, ils tremblaient dans leurs bottes. Et maintenant, c'est vraiment comme s'il ne s'était rien passé. La croissance va repartir, on a besoin seulement de réguler un petit peu à la marge, mais on ne va pas faire des changements très très profonds, etc. Tout va bien, et c'est comme s'il ne s'était rien passé. Et comme ils ont plus peur, et comme ils ont réussi à faire payer les peuples, mais gravement, hein, vous savez combien vous avez contribué, vous et les autres peuples du monde, pour renflouer les banques? C'est un chiffre incompréhensible. C'est 14 000 milliards de dollars. 14 et 12 zéros. J'ai ce chiffre d'une étude par deux personnes de la Banque d'Angleterre, donc un directeur exécutif. Ils ont présenté ces chiffres à un colloque de la Fed, c'est-à-dire la Banque centrale américaine. Je pense que ce sont des gens sérieux et j'utilise leur chiffre de 14 000 milliards de dollars que les contribuables du monde ont contribué pour renflouer les banques. Bon, comme c'est un chiffre impossible à concevoir, il faut traduire en secondes. Et si vous avez votre montre, une trotteuse, et vous faites 1 $ la seconde, vous avez à attendre 450 000 ans pour arriver à 14 000 milliards de secondes de dollars. C'est ce que nous avons déjà donné. Et ce n'est pas assez. Maintenant, il faut donner les retraites, les services publics, les services sociaux, l'éducation nationale, etc., etc. Pour nous, c'est les retraites en première ligne. Pour les Grecs, c'est autre chose. Pour les Portugais, c'est autre chose. Mais le G20 a compris que les peuples paient et qu'on peut continuer à les faire payer.